Alors, j'aimerais juste prier avant qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble. Seigneur, nous te remercions ce matin de ce que nous sommes là devant toi en tant que peuple aimé, avec un Père aimant, un Père qui est plein de richesses, plein de bonté envers ses enfants. Seigneur, merci parce que nous sommes tous rachetés, nous sommes tes enfants pour qui tu as un plan merveilleux. Et ce matin, je prie que notre identité soit de plus en plus ancrée en toi. Je prie qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu révèles encore des vérités, des perles, Seigneur, qui vont pouvoir influencer, changer, transformer en nous plus loin, Seigneur, tes enfants avec toi. Seigneur, merci pour ta parole qui est si précieuse, qui nous ouvre les yeux sur le vrai caractère de Jésus-Christ et du Père. Merci Seigneur. Amen. Alors si vous avez une Bible devant vous, je vous invite à l'ouvrir dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'humilité en Christ. Et on va lire ce passage donc, du verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon père était chef d'une boulangerie dans un grand hypermarché pendant de nombreuses années, et il avait un directeur qui s'appelait Monsieur Galpin. Et Monsieur Galpin portait très bien son nom parce que c'était quelqu'un qui avait comme mission dans sa vie de gagner son pain, mais d'une manière qui était extrême. Et mon père a toujours vraiment comparé en fait cet homme avec vraiment ce que représentaient les richesses du monde. Et M. Galpin, c'était quelqu'un qui avait commencé son business avec vraiment un tout petit local dans l'arrière d'une cour, et puis il avait gagné tellement d'argent, il avait tellement prospéré qu'un jour il avait pu se procurer cette grande surface, ce grand supermarché auquel mon père dirigeait une boulangerie. Et puis cet homme était tellement attaché à son argent, tellement attaché à son pain, tellement attaché à ce qu'il pouvait gagner. Et puis mon père était vraiment fasciné par son attitude. Le dimanche matin, par exemple, alors que nous on allait à l'église, on le voyait, on le croisait en voiture, et lui il allait compter son argent, tout l'argent qu'il avait gagné pendant la semaine, et c'était son culte à lui, son culte personnel, son culte sur son bureau en train de compter son argent, de comprendre là où il en était au niveau de son business. Un jour, mon père l'a vu à l'arrière de ce grand hypermarché, il y avait, vous savez, le local poubelle, et puis en fait, il y a une personne qui avait perdu un euro, et puis il a vu ce monsieur Galpin qui tout d'un coup a aperçu le 1 euro qui était derrière la poubelle, vous savez, la poubelle qui pendant des semaines, voilà, on entasse des choses, ça sent mauvais, et puis il a commencé à monter sur la poubelle, à grimper, à se gesticuler pour attraper ce 1 euro qui était à peine atteignable, mais il voulait absolument avoir ce 1 euro. Et c'était vraiment un spectacle assez impressionnant pour mon père, ce monsieur Galpin, qui avait une prestance, qui avait gagné tellement d'argent, se plier en quatre pour juste récupérer 1 euro derrière une poubelle. Et il avait compris en fait que pour lui c'était sa proie à arracher. Et dans ce passage, il nous est parlé d'une proie à arracher que Jésus n'a pas considérée, mais qu'il a laissée de côté pour aller jusqu'au bout de la mission de son père, que son père lui avait donnée. Et je crois que l'un des problèmes que nous avons humains, c'est toutes ces gloires à arracher. Pour ce monsieur Galpin, c'était ce 1 euro, c'était son argent, c'était son idole, c'était son but, c'était sa réussite, c'était tout ce que la vie représentait pour lui. Et finalement, dans nos vies, on a tellement de gloires qu'on cherche à arracher, n'est-ce pas? Et peut-être ces gloires, ça peut être notre réussite. Le fait d'avoir raison dans certaines situations, le fait d'avoir raison dans certains conflits, dans certains problèmes, la façon dont les gens nous perçoivent, notre appréciation, est-ce qu'on est apprécié ou pas, est-ce qu'on est le meilleur ou est-ce qu'on est le plus faible, notre connaissance, et la liste peut vraiment s'étendre, mais on a tous ces gloires qu'on cherche à arracher, en fait, des choses qui nous sont précieuses et qui représentent vraiment l'objet de notre poursuite dans la vie. Et en fait, ces gloires que nous cherchons à arracher sont toutes ces choses qui ne sont pas Jésus et qui ont le potentiel d'être notre source de valeur, notre source d'estime, notre source d'identité. Et un jour ou l'autre, ces choses-là peuvent devenir comme des gloires arrachées où on est prêt à faire des sacrifices pour s'emparer de cette gloire. Et vraiment cela, en fait, consiste en l'opposé même de l'humilité en Jésus. Et je crois que ici, dans ce passage, il nous est parlé de la recherche de notre propre intérêt. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres comme étant au-dessus de soi-même. Lorsqu'on n'est pas dans l'humilité, on est à rechercher nos propres intérêts. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans cette situation? Et vous savez, on a beau être chrétien, mais on peut quand même vivre cela. On peut quand même vivre les réalités d'une vie qui est orientée sur qu'est-ce que moi je peux gagner dans cette situation. Qu'est-ce que moi je peux gagner dans ma vie d'église? Pas qu'est-ce que moi je peux apporter, mais qu'est-ce que j'ai à gagner en fait? Où sont mes intérêts dans cet investissement dans une église locale? Où sont mes intérêts dans ma famille? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans tout cela? Dans mon travail, dans mes relations? Parce que finalement, derrière cette question, c'est finalement une gloire arrachée. Peut-être que moi je recherche mon propre intérêt parce que je veux absolument être reconnu, parce que je veux que les gens m'apprécient, parce que je veux que les gens me voient comme quelqu'un de bien, quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui a un impact. Donc finalement je ne m'investis même pas pour l'intérêt qui est plus grand que le mien, mais je m'investis pour un intérêt qui est centré sur ma personne. Je veux que les gens m'apprécient, je veux que les gens m'acceptent, je veux être reconnu. Et tout ça, bien sûr, c'est le contraire de l'humilité en Jésus-Christ. Et la Bible ici nous donne une solution qui est tellement pertinente. Il nous a dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc elle nous oriente vers la personne du Christ comme notre exemple suprême d'humilité. Qu'est-ce que cela veut dire avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il y a trois choses qui sont déclinées par rapport à cela. La première, lorsqu'on voit Jésus, c'est une personne qui a vu un but qui était plus grand que lui-même. Jésus a marché sur terre, il a démontré l'amour du Père, mais avant tout, il a vécu une vie qui était centrée sur quelque chose qui était plus grand que sa propre personne, plus grand que ce qui se passait ici-bas. Ce matin, on a entendu parler du fait d'être citoyen des cieux. Et je crois que c'est vraiment cette pensée d'éternité qui doit nous habiter. Vivre avec un but qui dépasse nos propres causes, nos propres intérêts, nos propres problèmes même du présent. Et ça, c'est vraiment un challenge dans notre société où tout est fait pour justement répondre à nos besoins du moment, les besoins du présent, les besoins du consommateur. Mais Jésus-Christ a vécu avec ce but-là. Il a vu, lorsqu'il était sur terre, ce que la croix allait accomplir. Il a vu ce que sa résurrection allait changer dans la vie des personnes. Et il était, je dirais, omnibulé par l'impact que son sacrifice à la croix, la résurrection, allait produire dans la vie des personnes. Ce qui comptait, c'était pas ce que lui simplement allait endurer, mais ce que cela allait produire dans la vie des gens. Lorsque Jésus considérait les âmes qui allaient être complètement transformées, les vies qui allaient être restaurées par l'impact de sa résurrection et de sa croix, bien Jésus a vraiment choisi de vivre sa vie en étant orienté sur ce but-là. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, non pas mon intérêt, mais le tien. Père, non pas l'intérêt de mon âme, mais l'intérêt des âmes qui ne te connaissent pas encore, qui ne font pas partie de ma maison. Père, non pas mon confort personnel. Père, non pas mes propres sécurités. Père, non pas toute cette zone que je me suis construite où je suis vraiment bien, confortablement assis. Mais Père, ton intérêt à toi, l'intérêt des nations, l'intérêt des personnes qui ne te connaissent pas encore. Jésus a vu plus grand que lui-même. Jésus a vu plus grand que sa souffrance physique. Et c'est ça qui l'a motivé, c'est ça qui lui a permis de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Vous savez, il y a des obstacles parfois qui se dressent dans nos vies, et la seule façon de les surmonter, c'est de voir un intérêt qui est plus grand que cet obstacle, plus grand que ma personne, plus grand que ce que moi je vis à l'heure actuelle. Bien sûr que les émotions sont réelles, bien sûr que les souffrances sont réelles. Mais il y a quelque chose de plus grand, il y a une cause qui est plus merveilleuse, la cause du royaume. Le royaume de Dieu qui vient, le royaume de Dieu qui s'étend sur terre. Dieu agit à Marseille, Dieu agit à Paris, Dieu agit en France. Mais si nous, Français, si nous, chrétiens français, notre but d'être chrétien, c'est d'avoir une vie plus confortable en Christ, eh bien on est passé à côté du but de la vie chrétienne, complètement à côté. Et croyez-moi, je l'ai vécu pendant ces 3 ans et demi à Marseille. Et c'est pas toujours confortable, même si à Marseille on a le soleil, même si on a la plage. Vous savez, il y a tellement de choses qui ne sont pas évidentes parfois aussi à vivre au niveau de l'insécurité, c'est vrai. Et puis, au niveau du climat de violence, du climat de, je dirais, d'impulsivité et d'agressivité parfois qu'on vit. On a eu vraiment des personnages très intéressants qui sont passés dans notre église pendant 3 ans. J'aurais beaucoup d'histoires à vous raconter. Parfois, je me suis senti même en danger dans des rendez-vous avec des personnes. Mais ce qui me pousse vraiment à persévérer, c'est que je vois le but de Dieu pour Marseille, le but de Dieu pour la France, le but d'étendre son royaume et de manifester sa gloire. Quel est l'intérêt plus grand que vous-même ? Jésus, deuxièmement, lorsqu'il vous a dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », il vous a parlé de cet homme, le Fils de Dieu, qui s'est dépouillé. Dépouillé. Comment est-ce que sont dépouillés ? Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Cette proie arrachée de son égalité avec Dieu, il aurait pu la mettre en avant, mais il a choisi de s'en dépouiller. Père, je quitte mon ciel de gloire, je quitte en quelque sorte toute cette reconnaissance, cette gloire que j'ai pour venir sur terre, manger la poussière, être avec les humains. Je me dépouille de cela. Et vous savez, il y a des moments, je crois, dans nos vies chrétiennes, dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, où s'il n'y a pas ce moment de dépouillement, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de croissance. Et je rencontre tellement de personnes qui parfois stagnent pendant des années dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas choisi de se dépouiller d'une chose qui se tient à eux, qui est accrochée à leur personne. Mais en fait, on a souvent le sentiment que si on se dépouille, on perd tout. Mais en fait, on a tout à gagner de se dépouiller. Mais ça vient après tout ce qu'on a gagné souvent. Mais Jésus, en tant qu'exemple suprême, s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de ses intérêts. Lorsque le diable l'a tenté pendant 40 jours, il a choisi de se dépouiller. C'était 40 jours de dépouillement. Et à la croix, on a cette vision de ce serviteur qui s'est réellement dépouillé, presque nu, à la croix, en spectacle, livré en spectacle devant le monde. Cet homme, le Fils de Dieu, égal avec Dieu, mais pourtant dépouillé. Troisième aspect du fait d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il nous a dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Quelqu'un qui vit dans l'humilité en Christ, c'est quelqu'un qui va vivre une vie de service. Quelqu'un qui va choisir de se mettre au service des autres. Si dans ton cœur ce matin, tu désires être un homme de Dieu, une femme de Dieu, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu seras un serviteur d'un homme. Ça veut dire que tu vas servir un homme, tu vas servir une femme, tu vas servir un enfant, ou tu vas servir une personne âgée. Mais on n'est pas serviteur de Dieu sans être serviteur des hommes. Vous savez, lorsque j'étais jeune et que j'aspirais au ministère, j'étais « Ah Seigneur, je veux être ton serviteur, un serviteur de Dieu. » Mais être serviteur de Dieu, c'est vraiment commencer par laver les pieds des gens. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège de pouvoir apporter la charge de la jeunesse nationale au niveau de notre mouvement. Mais vous savez comment j'ai commencé à m'impliquer à la multitude ? J'ai nettoyé les toilettes. Et c'était comme ça, c'était mon premier investissement. J'en ai des bons et des moins bons souvenirs, mais ça a commencé par là. Et souvent, on veut vraiment avoir cette reconnaissance-là d'être serviteur de Dieu, servant de Dieu, de l'Éternel, des armées. Mais est-ce que tu es vraiment serviteur des hommes ? Jésus a pris la forme d'un serviteur. Mais on a cet exemple parfait, cette illustration parfaite dans les Écritures, lorsque Jésus, dans ses derniers instants, il s'est levé de table avec ses disciples, il s'est entouré d'un linge, il a dit « Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est vraiment l'amour, je vais vous montrer ce que c'est une vie de service. » Et il s'est mis à genoux, il a commencé à leur laver les pieds. Pierre était outré, était choqué, « Mais comment tu peux me faire ça ?» Il dit « Si je ne fais pas ça, tu ne vas pas comprendre c'est quoi vraiment le service. Et si moi, je vous lave les pieds, vous devez vous laver les pieds. » Ça commence par le service. Jésus a incarné cela. Comment est-ce que l'on peut vivre cela aujourd'hui ? Comment est-ce que l'on peut répondre à ce texte de manière pratique ? J'aimerais vous donner 3 directions. Si nous voulons vivre l'humilité en Christ, ça veut dire vivre une vie, premièrement, ça veut dire vivre une vie d'obéissance et de service qui a le potentiel de nous coûter. Si ce matin nous voulons vraiment prendre pour exemple Jésus-Christ et dire « Seigneur Jésus, je vais vivre dans cette réalité-là d'humilité », alors cela veut dire qu'à un moment donné, je vais vivre une vie d'obéissance, une vie de service qui a le potentiel de me coûter beaucoup. Peut-être de me coûter certaines relations. Peut-être de me coûter mes apparences, la façon dont les gens me perçoivent. Peut-être de me coûter en argent. Peut-être de me coûter en temps. Peut-être de me coûter en énergie. Mais c'est être prêt à vivre une vie d'obéissance et de service qui a le potentiel de nous coûter. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et jusqu'où tu veux que j'aille avec toi? Deuxièmement, il nous faut accepter de perdre certains combats. Vous savez, lorsqu'on n'est pas dans l'humilité et qu'on est dans cette vie d'orgueil où on cherche à nous arracher certaines proies, où notre proie, c'est ce que les gens pensent de nous, ou c'est le fait d'avoir raison, c'est le fait d'être aimé, d'être accepté, eh bien, on veut gagner des combats. Et il y a certains combats qu'on n'est pas amené à mener dans la vie. Il y a certains combats qu'on doit choisir de les perdre, parce que ce n'est pas les combats que Dieu nous appelle à combattre. Peut-être c'est dans une vie de couple, vous avez un conflit, vous avez un argument, vous avez un problème, et puis Dieu vous dit, mais laisse ce combat. C'est pas le plus important de gagner ce combat. Ce qui est le plus important, c'est comment est-ce que vous pouvez aller plus loin avec Christ ensemble en tant que couple, en tant que famille. Et il y a tellement de familles qui se amontent les uns contre les autres parce qu'il y a des combats qu'ils veulent absolument combattre. Il faut absolument avoir raison. Il faut absolument avoir gagné. Oui, mais c'est injuste. Je veux pas que cette personne pense ça de moi. Mais est-ce que c'est plus important de ce que cette personne pense de toi, ou est-ce que c'est plus important que finalement, aux yeux de Dieu, tu sois vraiment sécurisé dans ton identité et que tu saches que quoi qu'il arrive, Dieu t'a accepté, tu as une identité en Jésus. Et on le voit parfois dans les mouvements d'église, tellement d'églises, vous savez, peuvent combattre, et on voit des conflits internes en église ou dans des mouvements d'église, même je dirais au niveau international, parce que c'est des combats que Jésus nous a jamais appelés à combattre. Vous savez, le combat que Jésus nous appelle à combattre, c'est le bon combat de la foi. C'est le combat des âmes, c'est le combat de pleurer à genoux pour les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça, c'est un combat qui mérite d'être combattu. Mais d'autres choses doivent être laissées de côté. Seigneur, tant pis si je parais être ridicule, tant pis si je parais aux yeux des gens d'être vraiment un faible ou une faible. Seigneur, je veux combattre ce combat que toi tu m'appelles à combattre. Donc vivre une vie d'obéissance, de service qui a le potentiel de nous coûter. Deuxièmement, accepter de perdre certains combats et de combattre le bon. Et troisièmement, avoir la confiance que Dieu nous élèvera au temps convenable, son temps, au temps convenable. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous, humiliez-vous devant sous la main puissante de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable, dit la parole de Dieu. Lorsqu'on s'humilie devant le Seigneur, nous avons la promesse qu'un jour il nous élèvera. Simplement, cette promesse-là, elle ne va peut-être pas se concrétiser dans le moment présent. Peut-être que pendant des années, tu as le sentiment que tu as été humilié par des gens. Peut-être humilié dans un contexte, peut-être que ton travail est passé inaperçu. Mais Dieu le voit, ton travail, Dieu voit tes efforts, Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes pleurs, Dieu voit ton humiliation. Et Dieu t'élèvera. Je peux te promettre cela, Dieu t'élèvera. Mais il faut être prêt à accepter que cette élévation ne viendra peut-être pas dans le moment présent. Elle viendra peut-être pas dans 2 ans, elle viendra peut-être pas dans 10 ans, elle viendra peut-être à la fin des temps lorsque Dieu sera là à te dire « Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Bonne et fidèle servante, entre dans mon repos, car tu étais fidèle dans tout ce que je t'ai confié. » Et oui, d'être fidèle dans ce que je t'ai confié, ça t'a coûté. J'ai vu tes larmes, j'ai vu tes sacrifices, j'ai vu tes douleurs, j'ai vu tout ce que tu as sacrifié pour moi. Mais entre dans mon repos. Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Ce qui compte, c'est pas d'être reconnu aujourd'hui. Ce qui compte, c'est pas simplement d'avoir une place, d'avoir un titre, d'avoir une autorité. Mais ce qui compte, c'est de savoir qu'aux yeux de Dieu, nous avons un jour cette récompense qui nous est réservée. D'être accepté dans son repos pour l'éternité. Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Nous devons ressembler à Christ dans son humilité. Vous savez, le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. C'est que je devienne de plus en plus comme Jésus. Le but de l'Église, le but de la communauté des croyants, c'est pas simplement de me brosser dans le sens du poil, mais c'est plutôt de me lancer des défis pour que je ressemble à Jésus. pour que de plus en plus, plus ma vie est en train de se dérouler, je puisse ressentir le caractère de Jésus. Et ce matin, que notre désir puisse être, Seigneur Jésus, je veux te ressembler. Je veux te ressembler dans ton humilité. Je veux te ressembler dans ton caractère. Je veux pas que ce soit mon caractère qui soit le dominant, le prédominant dans toutes ces situations, mais je veux que ce soit ton caractère. Et parfois, on voit des situations avec des yeux humains et on réagit de manière très charnelle, avec notre caractère, avec notre perception des choses. Et il est tellement important qu'on puisse prendre un pas en arrière et dire, Jésus, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi, Jésus, tu aurais fait à ma place? Hein, vous connaissez ce mouvement de jeunesse, hein, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Mais c'est tellement important de se poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu aurais fait à ma place? Je veux vivre ton humilité, je veux vivre ton cœur. Vivre les choses avec ton regard, avec ta pensée. Ayez la pensée qui était en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parfois, il y a des gens, vous savez, c'est très difficile de les aimer, de les accepter, de les apprécier pour qu'ils sont, parce qu'ils sont l'opposé de nous-mêmes, parce qu'ils représentent tout ce qu'on déteste. Et finalement, notre réaction, c'est pas « Seigneur, qu'est-ce que moi je pense de lui, mais qu'est-ce que toi tu penses de lui ?» Si aujourd'hui dans votre vie vous avez quelqu'un que vous avez du mal à aimer, j'aimerais vous encourager à faire un pas en arrière et dire « Seigneur Jésus, comment tu vois cette personne ? Comment tu vois cette personne que j'ai tellement de mal à aimer ? Comment est-ce que tu vois mon ennemi Jésus ?» Et vous seriez surpris de ce que Jésus pense de cette personne. Vous seriez surpris de la compassion et de l'affection que Jésus démontre à l'égard de cette personne. Vous savez, il y a près de 2 ans, 1 an et demi, on était un peu à un carrefour dans notre église. On sentait que c'était vraiment difficile pour nous d'avoir une régularité, d'avoir des personnes impliquées. Et puis, on avait ce long port d'espoir dans l'église locale. Et puis finalement, on a senti que Dieu nous donnait ce défi. Êtes-vous vraiment prêt à porter et à vivre ce long port d'espoir? Avec tout ce que cela implique, hein. Et pour moi, dans ma tête, la vision d'être un port d'espoir, c'était, vous savez, il y a une belle vision, là, le bateau, il arrive au port, et puis il se met au port, il est tranquille, tout va bien. Mais j'ai pas pensé aux personnes qui pouvaient sortir des bateaux. Et vous savez, lorsqu'on est dans la tempête, et puis qu'on arrive au port, on est content d'avoir un lieu où on peut être en paix, un lieu où on peut trouver une famille. Et on a commencé à voir des SDF qui venaient dans notre église locale, des gens qui venaient régulièrement. Ouais, c'est pas évident d'accueillir les gens de la rue, d'accueillir les gens qui ont tout perdu, d'accueillir des gens qui vont peut-être pas contribuer financièrement à l'église. Et souvent, quand on est minorité, on était vraiment une minorité dans l'église, et puis les personnes qu'on aurait aimé avoir, c'était peut-être des directeurs généraux de grandes compagnies. Oui, tu peux donner ta vie, il n'y a pas de souci. Mais Jésus nous a lancé ce défi, je crois que c'était vraiment, et je l'ai partagé avec nos responsables, que si on était fidèles avec ces personnes, peut-être on allait voir d'autres personnes venir. Mais si on voulait vraiment être un port d'espoir, ça commençait par être un port d'espoir pour ces personnes. Parce que c'est pour ces personnes que Jésus est venu. Et bien sûr, on peut les voir avec des yeux purement humains. Qu'est-ce que ces personnes vont nous rapporter pour notre intérêt à nous en tant qu'église locale? Et souvent, le danger dans une église locale, c'est d'être tellement coincé dans une vie de service qu'on oublie en fait de voir les personnes comme des vraies personnes. Comme des personnes avec une âme, avec des problèmes, avec des besoins. Et aux yeux de Jésus, ces personnes qui n'avaient rien à nous apporter, mais peut-être parfois des problèmes, ils étaient aussi précieux, aussi importants que n'importe quelle autre personne. Et si on n'était pas prêt à les accepter, à les traiter comme vraiment des chrétiens qui avaient autant de finances, autant de choses à nous apporter, à ce moment-là, on passait complètement à côté du but de notre vie chrétienne, à côté de la vision d'être un port d'espoir. Et lorsqu'on a commencé à être fidèle avec ces gens-là, on a vu que Dieu a béni, on a vu que Dieu a débloqué des choses, et puis tout d'un coup, on a vu des couples qui avaient 30 années de ministère qui sont venus en disant « Loïs, on aimerait vraiment s'impliquer avec vous, on aimerait soutenir l'œuvre ici à Marseille. » Puis après, un deuxième couple, et après, d'autres personnes sont venues. Et vraiment, on a vu la bénédiction du Seigneur. Et j'étais persuadé que c'était un cap à passer. Si on n'était pas prêt à voir justement la manière dont Jésus les voit, et bien à quoi bon persévérer, à quoi bon être, sans qu'on ait un point d'espoir. Ressembler à Jésus-Christ dans son humilité. Jésus vraiment a accepté de tout perdre. Peut-être que ce matin, il y a un combat qui est dans ta vie. Il y a une proie à arracher. C'est ta proie parce que tu sais que si tu perds cette proie, si tu n'arrives pas à t'emparer de cette proie, tu vas perdre. Tu vas perdre peut-être ton image, ton ego. Tu vas perdre en reconnaissance. Tu vas perdre dans la façon dont les gens te perçoivent. Est-ce que je peux t'encourager? Lâche cette proie. Dépouille-toi de cette proie. Dépouille-toi de ce but, de cet objectif. Et laisse Jésus te revêtir de ses sentiments. Laisse Jésus te donner son cœur. Laisse Jésus te donner son amour, son regard pour l'être humain. Vous savez, une idole, c'est une chose que l'on considère dans nos vies comme étant au-dessus de Jésus-Christ. Et vous savez comment on détecte une idole? On détecte une idole lorsque vous imaginez perdre cette chose-là et que votre réaction, c'est « je vais sauter d'un pont ». Parce que cette chose-là est tellement précieuse, tellement importante pour vous, que si elle ne serait plus présente dans votre vie, si elle n'était plus présente dans votre vie, rien n'aurait du sens. Rien n'aurait vraiment de... Il n'y aurait plus de joie, il n'y aurait plus d'engouement à la vie. À ce moment-là, vous avez détecté une idole. Et une proie arrachée, c'est ces idoles-là. Et vous savez, une idole, c'est pas forcément quelque chose qui est monstrueusement pécheresse. Parfois, ça peut avoir juste l'aspect d'une relation. Ça peut être une relation, ça peut être l'apparence, ça peut être voilà, ce que les gens pensent de nous, ça peut être tellement de choses. Et ça peut constituer un grand danger pour notre vie chrétienne, parce que ça peut être une proie arrachée. Parce qu'on est prêt à faire ces sacrifices pour cette idole. À Marseille, je vois des milliers de Marseillais qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour aller au stade Vélodrome. Et lorsque Jésus devient notre priorité, lorsque Jésus devient notre exemple suprême, et on est prêt à nous dépouiller de ces idoles, on est prêt à nous dépouiller de toutes ces choses qui parfois représentent l'orgueil de notre vie, qui représentent notre priorité. Alors ce matin, j'aimerais vous laisser ces pensées, j'aimerais vous laisser cet encouragement d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter à juste fermer les yeux, à avoir une attitude de prière maintenant. Je t'en ai juste à Esther de peut-être venir au piano, s'il te plaît. Je ne vais pas faire d'appel ce matin, mais j'aimerais juste qu'on puisse prier quelques instants et que Jésus puisse venir vous envahir de son amour, que Jésus puisse venir là où vous en êtes, vous donner ses sentiments à lui, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le chant, lorsqu'il était dans ses derniers instants avec le Christ, il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Il voulait écouter Jésus, il voulait entendre le Seigneur. Il voulait entendre les battements du cœur de Jésus. Il voulait avoir cette intimité. Il voulait avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager ce matin à prier, à vous approcher du Christ, à vous approcher du Seigneur et à dire « Jésus, je veux me dépouiller. Je veux me dépouiller de ce qui m'empêche d'avoir ta pensée, de ce qui m'empêche d'avoir ta vision, de ce qui m'empêche d'avoir ton regard sur les choses, de ce qui m'empêche de choisir d'être humble. » à une maman ce matin qui est ici dans cette salle. Et ton combat pendant des années, ça a été « je veux être une bonne maman ». Et je veux que les gens me voient comme étant une bonne mère. J'aurais tellement honte si les gens me perçoivent comme étant une mauvaise maman. Et ton combat, ta proie arrachée, c'était l'éducation de tes enfants, te dire « je veux absolument pouvoir les éduquer parfaitement, je veux leur transmettre ceci, cela, parce que je veux absolument être une bonne mère, je veux que les gens me perçoivent comme étant une bonne mère, je ne veux pas faillir à cette tâche que Dieu m'a donnée. » Et pendant des années, ça a été ton combat, ton épuisement parfois. Et puis le Seigneur veut te dire « je veux te libérer. » Je veux te libérer de cette pression d'être vue comme être une bonne maman. Je veux te libérer de cette pression d'absolument réussir à être une bonne mère. Et je veux que tu reçoives ma grâce. Je veux que tu reçoives mon identité. Je veux que tu reçoives mon humilité. Ce qui compte, c'est pas ce que les gens vont percevoir de toi. Mais c'est ce que moi, je pense de toi. C'est parce que moi, je vois ton cœur. Je vois tes larmes pour tes enfants. Je vois tes combats. Mais dépouille-toi ce matin de cette pression d'être absolument vue comme étant la mère parfaite, la maman qui a réussi. Ta vision de la réussite, ce n'est pas forcément ma vision. Laisse-moi te recouvrir de ma grâce. J'aimerais vraiment que le Seigneur veut porter vraiment cette parole et ce réconfort, ce moment-là pour une maman, peut-être plusieurs mamans qui peuvent se reconnaître dans cette parole ce matin. Jésus, viens. Agis, Seigneur.